France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch a pénétré hier dans les eaux territoriales italiennes, malgré l'interdiction. Il est bloqué en mer Méditerranée avec 42 migrants à son bord, dont la situation, selon la capitaine du navire, est plus désespérée que jamais. Le bateau se dirige donc actuellement au large de l'île de Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, estime que c'est l'ONG qui séquestre actuellement les migrants et l'Europe qui abandonne l'Italie. Sur la situation des migrants en France maintenant, 21 associations ont écrit une lettre ouverte à Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Elles ont alerté hier sur les risques encourus pour les personnes sans papier dans les centres de rétention. Avec la dernière loi sur l'immigration, disent-elles, la durée de rétention a doublé, générant de la violence. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, nous irons à Caracas, où le ministre vénézuélien de la communication, Rodriguez, affirme qu'un coup d'État a été déjoué. Des militaires, a-t-il dit, avaient prévu d'assassiner le chef de l'État, Nicolas Maduro. Il accuse les États-Unis, la Colombie, le Chili et l'opposition vénézuélienne d'avoir comploté. Des accusations rejetées par l'opposant Juan Guaido. Encore un coup dur pour Boeing. L'Agence fédérale de l'aviation américaine a détecté une nouvelle faille potentielle sur son modèle 737 MAX. Cette faille doit être réparée, demande le régulateur, ce qui retarde donc le vol test de l'avion pour reprendre du service. En France, notez que les sénateurs de droite, majoritaires au Sénat, veulent encadrer le droit de grève dans certains secteurs de la fonction publique territoriale, dans l'accueil de la petite enfance par exemple, les cantines scolaires ou encore à l'aide aux personnes âgées. L'amendement dans le cadre de la réforme de la fonction publique a été adopté par 193 voix hier contre 107. Le Sénat qui a rendu un rapport hier par ailleurs sur les conséquences économiques de la crise dite des gilets jaunes. Les dégâts matériels ont déjà donné lieu à des indemnisations partielles à hauteur de 217 millions d'euros de la part des assurances. Une aide en faveur surtout des commerçants.
France Culture présente le DVD du film Les Estivants de Valeria Bruni Tedeschi. Dans une grande villa de la Côte d'Azur, Anna retrouve sa famille pour les vacances.
Il arrive quand, Luca ?
Il arrive ce week-end.
Au milieu de l'effervescence, Anna doit gérer sa récente rupture. Peu à peu, des rapports de force et de désir vont ébranler l'harmonie fragile qui règne dans la villa.
Vous savez, chacun fait sa vie dans cette maison.
DVD du film Les Estivants de Valeria Bruni Tedeschi, actuellement disponible, un partenariat France Culture.
Il est 6h03 sur France Culture. Nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Que deviennent les mots de Brassens, les chansons de Georges Brassens? Les a-t-on méticuleusement et définitivement rangés dans un tiroir, un des tiroirs du patrimoine français du XXe siècle, avec une fiche indiquant les anniversaires à ne pas manquer? Mais non, mieux, Brassens continue à raconter le monde d'aujourd'hui, et la preuve nous vient de Marseille, où la chanteuse Christina Rosmini a décidé de puiser dans les mots de Georges Brassens pour raconter sa propre histoire, et l'histoire de sa famille venue d'Espagne, de Corse et d'Italie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un réveil culturel chantant et méditerranéen ce matin. Christina Rosmini est mon invitée.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Dueño es del tiempo, tiempo cruel. Nombre hermoso, el de Saturno, pero es un dios, cuidado con él. Nombre hermoso, el de Saturno, pero es un dios, cuidado con él. En allant son chemin morose pour se désennuyer un peu. Il est jour à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Io e ti te tocco, mi amado. Pagar el pato de su crueldad. El tiempo no perdona nada. Y en tu pelo una cana más. El tiempo no perdona nada. Y en tu pelo una cana más.
Bonjour Christina Rosmini.
Bonjour.
Vous êtes née à Marseille, vous êtes marseillaise en fait.
Absolument, une vraie.
Une vraie marseillaise. Avec des origines espagnoles, corses, italiennes, donc une vraie marseillaise. Voilà. Vous êtes chanteuse, danseuse, comédienne, musicienne, auteure. Et vous avez donc créé ce spectacle Tio, itinéraire d'une enfant de Brassens, il y a 2 ans. Et vous allez encore tourner avec ce spectacle à Avignon. C'était cette année, c'était pour la 2e année consécutive.
Hein. Le troisième.
Troisième année consécutive. Mmh. Et là, vous avez eu cette idée de raconter votre vie, mais qu'à travers les chansons de Georges Brassens.
Alors, plus que les chansons encore, puisque j'ai puisé dans l'intégralité de sa parole, on va dire. Dans ses chansons, dans ses inédits, dans ses poèmes, dans ses petits romans.
Bien sûr, c'est une reprise de Saturne.
De Saturne, voilà, avec mêlée à la version de Pierre Pascal que Pierre Pascal avait faite pour Paco Ibáñez. Voilà. Et donc, voilà, j'ai puisé dans sa parole. Ça va jusqu'à sa correspondance, ça va jusqu'à ses interviews. Donc, j'ai écouté, j'ai lu l'intégralité de ce que Brassens a pu dire. Et avec ça, j'ai tricoté une histoire qui raconte mon propre parcours familial.
Mais pourquoi Brassens ?
Pourquoi Brassens ? Ben alors, parce que justement, Brassens, c'est quelqu'un qui nous a, nous, immigrés espagnols, italiens, corses, nous a donné une identité française. C'est ce que j'ai voulu raconter au travers de ce spectacle. C'est-à-dire que j'ai rencontré un sociologue qui s'appelle Salvador Juan, qui a fait un ouvrage remarquable qui s'appelle « Sociologie d'un génie de la poésie chantée », Georges Brassens, et qui raconte comment Brassens a été non seulement un facteur, on va dire, de cohésion nationale, puisque tout le monde a son Brassens, tout le monde, les antimilitaristes comme certains militaires, les fleurs bleues comme les canailles, tout le monde a son Brassens.
Les hommes comme les femmes.
Voilà. Et puis tout le monde, Brassens a été aussi un facteur, on va dire, d'émancipation, justement, des classes populaires, parce qu'il a donné aux pauvres gens, aux gens qui n'avaient pas forcément accès aux lettres, un vocabulaire châtié, la poésie, un côté irrévérencieux, etc. Et nous, moi, quand je dis nous, je parle de mes grands-parents, puis de mes parents.
Ils ont écouté Brassens.
Ils se sont nourris.
De Brassens.
Oui. Et grâce à Brassens, ils ont accédé à la langue et puis à cette identité française que Brassens représentait si bien.
Vous n'hésitez pas, Christina Rosmini, à le traduire. Hein. On entend Brassens dans toutes les langues de la Méditerranée.
Alors là, essentiellement en espagnol quand même, puisque j'ai mis l'accent un peu plus sur mon côté hispanique. Mmh. Et j'ai arrangé les chansons avec mes compagnons de route, mes musiciens, avec une veine aflamencada. Hein. Il y a un petit côté flamenco comme ça, donc on va entendre La chasse aux papillons avec un air, un toque d'Alegría de Cádiz. Là, en fait, ce que vous venez d'entendre, Saturne, c'était un peu bolero. Donc, il y a toujours comme ça une vision ou flamenca ou latine de la musique de Brassens dans ce spectacle.
Pour reprendre Brassens, il faut avoir l'accord des ayants droit de Georges Brassens.
Ah, mais bien entendu. Alors, je dis toujours, le spectacle s'appelle Tio, ce qui veut dire tonton. Mais moi, j'ai eu l'accord de son véritable neveu. Hein. Donc, non seulement son neveu, qui a été vraiment charmant et qui a été emballé par le projet, qui m'a donné tous les droits, mais bien entendu, les éditeurs, hein, en l'occurrence Universal et Warner. Il y a tout un processus, évidemment, avant de se permettre de se réapproprier comme ça la parole d'un auteur.
Voilà, je dis ça parce que le disque est prêt. On peut avoir Tio, itinéraire d'une enfant de Brassens, mais ce spectacle, il n'a pas été conçu d'abord pour un disque, pour un enregistrement, c'était pour le théâtre.
Tout à fait. Absolument, oui, c'était vraiment...
Et pas n'importe quel théâtre, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Marseille, c'est un théâtre très engagé.
Oui, c'est un théâtre auquel je suis extrêmement attachée, comme beaucoup d'artistes. C'est le théâtre Tourski à Marseille, avec son capitaine Richard Martin, un théâtre qui donne la parole aux artistes, qui donne la parole d'ailleurs aux artistes du monde entier, aux Marseillais comme moi, qui peuvent avoir un lieu de résidence absolument exceptionnel. Puis c'est un théâtre actuellement dont, voilà, ça vous me permettez de faire une petite parenthèse, qui a besoin de soutien. J'invite tout le monde à signer la pétition pour le soutenir, parce que évidemment les collectivités locales ne le soutiennent pas comme il le devrait, puisque c'est un lieu à la fois de culture, mais à la fois aussi de parole citoyenne,
et de contestation,
partage.
On peut le dire.
Oui, de contestation, et puis de parole, un lieu de parole. Il est implanté dans le quartier le plus pauvre d'Europe. Donc c'est important de soutenir ce lieu qui m'a permis une fois de plus de créer un nouveau bébé, et en l'occurrence ce Brassens-là qui lui correspond, je pense, aussi au niveau des valeurs.
S'il fallait résumer votre itinéraire artistique, Christina Rosmini, comment ça a commencé ?
Ça commencerait par la famille, précisément, une famille qui chantait tout le temps, hein, une maman qui chantait, une famille où la musique était omniprésente, même si personne n'en a fait un métier. Et puis ensuite, c'est l'opéra de Marseille chez Roland Petit, la danse, et puis le théâtre, et puis des comédies musicales ici à Paris, aux Folies Bergères, les années Zazou, puis ensuite... le fait de s'approprier sa propre plume et se dire que on peut raconter des choses intimes qui peuvent toucher à l'universel. Et donc voilà, je suis devenue auteur, compositeur, interprète, avec forte, on va dire, de toutes ces rencontres, de toutes ces expériences. J'ai rencontré Georges Moustaki il y a quelques années, et puis Maxime Le Forestier, Paco Ibáñez, avec qui j'ai fait un duo. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, je présente un petit monde singulier qui me ressemble.
Quel instrument jouez-vous ?
Alors écoutez, très modestement, je joue un petit peu de guitare, des crotales, du bendir, voilà, pas mal de petites choses comme ça, mais en vérité je suis accompagnée par des musiciens qui sont des orfèvres, qui sont de grands, grands, grands musiciens qui accompagnent les plus grands. Donc je donne la direction musicale, voilà, c'est mon monde, mais il est interprété par des musiciens de haut vol.
C'est vous qui assurez les arrangements de ces titres, par exemple de ce spectacle, Tio, itinéraire d'une enfant de Brassens ?
J'ose le dire, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment ma patte. Après, mes musiciens sont invités à me proposer ce qu'ils ont envie de me proposer, mais c'est vraiment ma direction, oui.
Alors, on va écouter un deuxième morceau de Georges Brassens, un des derniers d'ailleurs, puisqu'il l'avait enregistré au début des années 80, et il résonne d'une manière très particulière aujourd'hui.
Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. N'était pas des barbes bleues, ni des pelés, ni des galeux, porteurs de parasites. On n'était pas des spadassins, on venait du pays voisin, on venait en visite. On venait pour se présenter, on venait pour les fréquenter, pour qu'ils nous plébiscitent, dans l'espérance d'être admis et naturalisés amis. Del mar porque yo nací en el Mediterráneo. On poussait pas des cris d'indiens, on avançait avec maintien et d'un pas qui hésite. On braquait pas des revolvers, on arrivait les bras ouverts, on venait en visite. Mais ils sont rentrés dans leurs trous, mais ils ont poussé les verrous. Ils ont fermé les contrevents, caché les femmes et les enfants, refusé la visite. Que les voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Pas au temps des croisés, c'était la semaine passée. Ils nous ont pris pour des suspects, ils nous ont tenus en respect. On n'était pas des sarrasins, on venait du pays voisin. La sienne, le Méditerranée. Mediterráneo.
le réveil culturel. Toufik Hakem.
Des mots de Brassens de 1982 que vous faites résonner aujourd'hui, Christina Rosmini, et quand on vous entend chanter, on n'était pas des Sarrasins, on venait des pays voisins, bien sûr, on pense aux réfugiés, on pense aux traversées clandestines, on pense à cette nouvelle tragédie méditerranéenne.
Absolument, oui. C'est pour ça que j'ai voulu d'ailleurs un arrangement légèrement africain, quoi. Il y a quelque chose qui parle de l'Afrique dans cet arrangement, même si c'est encore hispanisant. Et effectivement, j'ai simplement voulu témoigner, on est juste des témoins, nous les artistes, du fait que le diable n'est pas toujours habillé de la même manière. C'est-à-dire qu'autrefois, dans les années 20, on noyait les Italiens dans le vieux port en les appelant les babis, ça voulait dire les crapauds. Donc voilà, c'est-à-dire que quand on est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, le seul à ne pas avoir le masque à gaz à l'école où étaient ma mère et mon oncle, c'était le petit Martinez, quoi. Voilà, c'est voilà.
Et vos parents, parce que je rappelle que vous avez des origines corses, italiennes et espagnoles, vos parents vous ont raconté leur histoire, leur arrivée à Marseille?
Bien sûr, c'était mes grands-parents, hein, mes grands-parents, mais bien sûr, non seulement je suis pétrie de tout cela, mais je m'en fais porte-parole. Et c'est pour ça que cette chanson qu'on vient d'écouter, c'est la première chanson du spectacle, La Visite. Donc j'arrive, je suis mon propre grand-père, j'ai la casquette de mon grand-père, un costume d'homme. Et j'arrive, je découvre cette terre de France qui va à la fois, qui me fait rêver et à la fois dont je ne sais rien. Voilà, c'est le début et ça parle de cette traversée, ça parle de cet espoir d'un monde nouveau, d'une vie nouvelle dans cette bonne terre de France. Donc c'est tellement d'actualité.
Vous avez combien de musiciens avec vous dans vos spectacles? Alors, Christina Rosmini?
En concert, généralement, j'ai 3 musiciens. Et là, j'en ai 2. J'ai Bruno Caviglia, mon maritariste, je dis souvent. Et puis Xavier Sanchez à la percussion. Mais on entend aussi mon 3e musicien, on l'a entendu, la danse à Saturne, puisqu'il y a également de la musique off, on va dire, dans le spectacle. Sébastien Debar, donc voilà, mes musiciens chéris qui me suivent depuis tellement d'années.
Et vous, sur scène, vous êtes tout à la fois chanteuse, mais aussi interprète.
Oui, surtout dans ce spectacle où je m'amuse. Je commence, d'abord je suis mon grand-père, je suis mon père, ma mère, moi enfant, moi, voilà, à tous les âges, ça décline comme ça, je m'amuse beaucoup. Mon metteur en scène est Marc Pistolesi, qui a participé à Yves Olivi, avec lequel il a eu le Molière du meilleur spectacle musical il y a 2 ans. C'est un garçon très inventif, qui est de Gardanne, pas très loin de Marseille. Et donc on s'est beaucoup amusé, oui.
Vous chantez tout le temps, Christina Rosmini?
Tout le temps.
C'est-à-dire?
Comme je vous disais, ma mère chantait du matin au soir, ma grand-mère aussi. Voilà, je crois que c'est une manière d'être au monde, pour moi, de chanter.
Alors, c'est pas la première fois que vous appliquez ce principe, c'est-à-dire chercher dans le répertoire d'un chanteur connu les mots qui peuvent le mieux résumer votre vie, votre personnalité, vos filiations, puisque vous l'avez fait avec d'autres poètes.
Voilà, la première fois où j'ai fait ça, c'était
El Niño Lorca.
Exactement, El Niño Lorca. El Niño Lorca, c'est en 2016, au Teatourski également. Et cette fois-ci, je me suis amusée à tisser l'intégralité de l'œuvre de Lorca dans la langue originale, mais je l'ai adapté en français, mais pas pour raconter ma vie, mais pour raconter la sienne. Donc ce spectacle, il va y avoir un album qui va sortir en novembre, et je le reprendrai aussi à Paris. Très probablement, je vais reprendre tous mes 3 spectacles à la rentrée à l'Alhambra.
El Niño Lorca, le Brassens, le tuyau itinéraire d'une enfant de Brassens. Oui. Et puis, est-ce que vous avez une autre vie où ce sont vos mots, votre inspiration, vos compositions que vous mettez en avant?
Absolument.
Christina Rosmini, ouais.
Absolument. J'ai sorti un premier album au Chant du Monde qui s'appelait Sous l'Oranger. Un second qui s'appelait Lalita chez l'autre distribution. Et là, j'ai créé il y a 3 semaines Louve, qui est donc mon nouveau répertoire, 15 nouvelles chansons, qui seront également à Paris à partir de la rentrée à l'Alhambra.
Et vous chantez quoi?
Je chante quoi? Je chante ce qui me tient à cœur. Alors, pendant longtemps, j'ai chanté quand même beaucoup mon histoire, ça partait vraiment beaucoup de l'intime.
Et de la Méditerranée.
Et de la Méditerranée, et de la femme en Méditerranée. Et puis aujourd'hui, ben, peut-être que ça s'est un petit peu diversifié. J'ai une chanson sur la Pachamama, la terre-mère. J'ai une chanson sur une femme migrante, justement, puisque on raconte que l'année dernière, lors d'un des pires naufrages vécus en Méditerranée, sur 22 corps récupérés par l'Aquarius, 21 étaient des femmes. Et j'ai raconté ça en chanson, enfin voilà. Enfin, c'est toujours assez poétique, assez engagé, et très méditerranéen, oui.
Et très méditerranéen, c'est quoi la définition pour vous d'être très méditerranéen?
C'est compliqué à dire, mais on va dire dans le choix des instruments, peut-être. J'ai un cajón, j'ai une guitarra flamenca. Donc il y a déjà des sonorités dans les instruments qui sont plus méditerranéens qu'anglo-saxons, on va dire. Et puis dans mes arrangements aussi, dans mes thématiques peut-être, dans ce que je porte, peut-être dans mon grain de voix aussi, il y a quelque chose qui est ancré dans cette mer.
Est-ce qu'il y a une scène musicale marseillaise ?
Une scène musicale marseillaise, bien entendu. Elle est quand même, je crois, essentiellement rap, hip-hop. Voilà, c'est pas forcément la chanson qui prédomine à Marseille, la chanson française. Il y a des terreaux plus chansons, la région lyonnaise, la région de Rennes, etc. Voilà, Marseille, je pense que c'est plutôt une scène urbaine. Mais bon, vous voyez, je suis auteur-compositeur franco-hispanique et j'ai ma place aussi, donc il y a de tout. Hein.
Et le public ?
Et le jazz. Tout genre, tout style, tout âge.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus, la chanson ou plutôt la scène, Christina Rosmini, s'il fallait mettre les deux mots dans l'ordre entre chanteuse et comédienne? Vous êtes par ailleurs danseuse, auteur-compositeur.
Oui, vous savez, il me semble que c'est peut-être une question qui est un peu française en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pays où le fait d'être un peu, enfin, avoir diverses cordes à son arc n'est pas suspect. Peut-être qu'en France, on a un peu plus envie que les gens aient une casquette plus identifiable, plus facile à, je sais pas, objectivement.
Je suis d'accord avec vous, hein? même si c'était pas le sens de ma question, mais par oui. exemple, est-ce qu'on peut vous imaginer jouer sans chanter?
Ça m'est arrivé, oui, j'ai joué le rôle de Carmen au théâtre, j'ai joué, oui, mais c'est vrai que la chanson pour moi, c'est, alors là, voilà, pour aller, je pense, pour retrouver le sens de votre question, je pense que pour moi, la chanson renferme tout le reste des arts. Ça me permet d'écrire, ça me permet de composer, ça me permet de jouer la comédie, ça me permet de danser, enfin, voilà, c'est vraiment, ça me permet de raconter exactement ce que je veux, puisqu'une pièce de théâtre, très souvent, ben, il y a un propos et on s'y tient. Alors que la chanson, ça me permet, toutes les 3 minutes, d'amener le public ailleurs.
Et à partir du 5 juillet, retour à Avignon avec donc votre spectacle, avec les mots de Brassens, les chansons de Brassens.
Encore une fois l'aventure, oui, l'aventure avignonnaise, qui n'est pas de tout repos, mais qui est assez jubilatoire.
Pourquoi ?
Parce que vous savez, non seulement on joue tous les jours, alors moi en l'occurrence je fais relâche le mardi, mais on joue quasiment tous les jours, et puis on fait des parades dans les rues, vous savez, ce principe avignonnais qui est d'aller un petit peu chercher le public, aller à la rencontre du public dans les rues. Il fait généralement pas très frais, hein, comme on le sait, en plein été à Avignon, donc c'est très intense, hein, il y a toute la promo autour, on sait que c'est pas de tout repos, mais voilà, c'est une jolie aventure, le public nous suit, et on espère que cette année ça va être encore plus plein, si c'est possible.
Vous jouez où à Avignon ?
Au théâtre de Cabestan, voilà, en plein centre. À 17h15.
Et tous les jours à 17h15.
Voilà, sauf le mardi.
Sauf le mardi, ça, on l'avait bien noté, Christina Rosmini.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent tôt par terre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par tout ce dont apprenant que son fils est guéri par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue, Marie.
Prière. Christina Rosmini, quand vous reprenez cette chanson de Brassens, c'est pour illustrer la foi.
Oui, ouais. En effet, c'est dans le spectacle le moment où, contre toute attente, dans une famille comme dirait Brassens, d'anticléricaux fanatiques, gros mangeurs d'ecclésiastiques, la foi me tombe dessus.
Et comment elle vous est tombée dessus?
C'est compliqué à dire, mais voilà, il arrive un moment où on voit peut-être au-delà des apparences, au-delà de ce qui est visible, et où on se dit que toutes ces petites perceptions fines qu'on peut avoir, ces petits signes, sont peut-être le signe d'autre chose, de plus grand.
Et pas d'accent marseillais hein, depuis le début.
Ah, vous trouvez ?
Vous avez un accent marseillais ?
Ah, je crois, je sais pas, c'est vous qui savez mieux que moi.
Vous travaillez avec, vous jouez avec les accents italiens, espagnols, corses, marseillais ?
Dans ce spectacle un peu, oui. Dans le théo, oui, je m'amuse à ça. Surtout avec l'accent marseillais quand j'étais petite, ou par rapport à mon papa, qui lui a un accent assez prononcé, donc oui, en effet.
Vous jouez avec, y compris vos souvenirs?
Beaucoup. Mais ce qui est assez étonnant, c'est d'avoir réussi à trouver dans Brassens des choses qui faisaient écho à mes propres souvenirs. Par exemple, quand j'étais petite, j'étais amoureuse du voyou de l'école, le dernier de la classe, qui est devenu un bandit et qui m'invitait à faire du vélo. Et je raconte tout ça avec la chanson « Le voyou » de Brassens et les mots de Brassens qui lui-même faisait du vélo quand il était petit, avec sa maman qui préparait de la cuisine italienne, avec sa famille qui chantait tout le temps. Donc, ces mots à lui servent tout simplement à raconter mes souvenirs.
Chanson populaire, diriez-vous ?
Oui, indéniablement. Oui. Chanson populaire, mais chanson populaire, vous savez, c'est toujours pareil, hein, c'est ce mot variété, qu'est-ce qu'on y cache derrière ? Nous, on écoutait à la maison, je crois, de la très belle variété. Mais Brassens, c'est de la chanson populaire pour moi, mais de qualité.
Alors, votre spectacle, à partir du 5 juillet, ça c'est Avignon. Mm-hmm. Sinon, le disque, eh ben, il est distribué un peu partout. Mm-hmm. Tio, itinéraire d'une enfant de Brassens. Merci beaucoup, Christina Rosmini, d'être passée ce matin nous enchanter.
Merci.
Avec les chansons de Brassens, mais aussi avec votre voix et vos musiques.
Merci beaucoup.
Chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois, la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou.
On se retrouve demain pour la dernière émission de la saison. Et demain, on parlera bande dessinée. Le Réveil culturel est à retrouver sur franceculture.fr pour une réécoute en ligne ou un abonnement au podcast. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique, Benjamin Vignal. Bonne matinée et à demain.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Nouveau sur France Culture, l'épingle du jeu. Nouvelle émission de jeux littéraires et d'humour avec sa joyeuse bande des épinglés rassemblée autour d'Odile Conseil. Jouons avec les mots, la grammaire, les références littéraires et même le langage des réseaux sociaux sur un air de fantaisie. À chaque rendez-vous, un thème et son grand invité. Venez découvrir l'épingle du jeu en public lors du festival Imagine au Centre Pompidou à Paris les 11 et 12 mai à 20h. Gratuit sur réservation, maisondelaradio.fr.
Fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles.
Follow me.
Pour la première fois au cinéma, l'écran s'éteint.
France Culture et MK2 vous invitent à l'expérience unique du ciné sonore. Un film sans images, en son immersif. Jeudi 4 juillet à 20h au MK2 Bibliothèque de Paris, découvrez Le Brasier Chalet avec Gaspard Ulliel, Marianne Faithfull et Warren Ellis.
Tu vis l'homme blême s'adonnant aux arts illicites.
Informations et billetterie sur franceculture.fr et mk2.com.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Caracas dit avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire. Le ministre de la Communication accuse même des pays voisins et les États-Unis. Nous irons au Venezuela dans un instant. Nous expliquerons ensuite la situation dans les centres de rétention pour migrants. 21 associations ont écrit une lettre ouverte hier au ministre de l'Intérieur. Elles dénoncent une politique punitive. Et puis Nicolas Sarkozy publie un livre aujourd'hui, dressant son portrait. Nous l'avons lu, verbatim à suivre. Il affirme que le gouvernement vénézuélien a déjoué un coup d'État. Le ministre de la Communication dans le pays accuse des militaires, majoritairement retraités et en exil, d'avoir projeté de tuer le président vénézuélien, Nicolas Maduro. Ils auraient été soutenus, toujours selon Caracas, par les États-Unis, la Colombie et le Chili. Et le ministre est sûr de lui, Benjamin Delisle.
À en croire Jorge Rodriguez, si le coup d'État a pu être déjoué, c'est grâce à l'infiltration d'agents du renseignement au sein du groupe militaire mis en cause. Selon lui, ces militaires voulaient agir le week-end dernier en prenant une grande base militaire de Caracas, la banque centrale et le palais présidentiel, afin d'imposer Raúl Baduel, un ancien ministre de la Défense emprisonné, comme président de la République. Au passage, le ministre de la Communication assure qu'il voulait éliminer tous ceux qui feraient obstacle.
Il voulait assassiner 95% des généraux des forces armées nationales bolivariennes. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient le soutien que de 5% d'entre eux.
Une manière de dire que le gouvernement est plus fort que jamais car ces militaires ne seraient qu'une minorité et qu'ils ne soutiennent même pas l'opposition dirigée par Juan Guaido. Jorge Rodriguez a aussi accusé Iván Duque et Sebastián Piñera, président de la Colombie et du Chili, d'avoir fomenté ce coup d'État avec Washington.
Ce sont des promoteurs de coups d'État contre le Venezuela. Ce sont des investisseurs dans des actions agressives contre la démocratie et la constitution du Venezuela.
Ce n'est pas la première fois que Jorge Rodriguez se présente en direct à la télévision pour annoncer qu'un coup d'État de ce genre a été déjoué. C'est un nouveau roman, accuse d'ailleurs Juan Guaido. Pour le leader de l'opposition, en présentant des preuves invérifiables, le gouvernement joue une fois de plus la victime face au monde entier.
Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. La ligne rouge est franchie dans les centres de rétention pour migrants en France. Voici ce que disent 21 associations dans une lettre ouverte adressée au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. 24 900 migrants ont été placés en rétention l'année dernière en métropole. Et depuis janvier et la loi sur l'immigration, ces sans-papiers peuvent rester enfermés jusqu'à 90 jours. La durée de rétention a doublé et cela génère de la violence inédite, Tara Schlegel.
Grève de la faim, émeutes, automutilations, jamais, disent les associations qui travaillent aux côtés des étrangers, jamais le climat n'a été aussi tendu. David Rouy, de la CIMAD, raconte ce père de famille, arrêté en mai dernier avec sa fille de 16 ans.
Le père nous a tout de suite dit qu'elle était très fragile psychologiquement, et très vite, elle a tenté de mettre fin à ses jours, en avalant un grand nombre de pièces de monnaie. Elle a été hospitalisée, et puis finalement, elle a été libérée après 10 jours de rétention. Et des cas comme cela, je pourrais vous en citer de très très nombreuses, ou comme un collègue qui travaille au centre de rétention de Rennes et qui un jour reçoit dans son bureau un monsieur qui s'est cousu la bouche. On est sur ce niveau-là de violence générée par cette politique.
Ces actes de désespoir sont nourris par une politique d'enfermement sans discernement, écrivent les ONG. De plus en plus de familles sont arrêtées. 208 enfants de moins de 12 ans enfermés l'an dernier en métropole, mais aussi des malades psychiatriques qui se retrouvent à l'isolement, des handicapés, des malades graves qu'on ne pourra jamais renvoyés chez eux. Les associations parlent d'une violence institutionnelle démesurée et injustifiée. 6 étrangers sur 10 sont finalement libérés. 40% sur décision d'un juge, ce qui prouve que l'enfermement était illégal, écrivent les associations. Depuis que la durée de rétention est passée à 3 mois, la violence explose, mais le taux d'expulsion vers les pays d'origine est stable. Ces enfermements conçus pour faciliter les retours sont donc injustifiables. Les ONG en appellent à créer Christophe Castaner.
La crise migratoire encore en Italie cette fois. L'ONG allemande Sea-Watch a décidé de briser le blocus imposé par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini après 2 semaines passées en mer Méditerranée. Le navire humanitaire a pris la direction du port de Lampedusa pour accoster, et ce malgré la colère et les mises en garde des autorités italiennes. Que va devenir la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali? Elle avait été créée en 2013 sous l'impulsion de François Hollande après l'offensive de la France pour chasser les groupes djihadistes au nord du Mali. Et ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur le prolongement de son mandat ou non, alors que des massacres interethniques se multiplient depuis quelques mois dans le pays. Nous faisons donc le point ce matin sur les forces de la MINUSMA au Mali avec Omar Waman.
Avec ses 13 000 soldats, la mission de l'ONU au Mali est l'une des plus importantes. Chargée du maintien de la paix, elle est également la plus coûteuse en vie humaine. Depuis 6 ans, on compte 195 morts, dont 153 casques bleus tués dans des actes hostiles. Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique.
La mission des Nations Unies au Mali, ça a été vraiment le plus meurtrier. C'est une sorte de traumatisme au niveau des Nations Unies. Ils n'étaient pas habitués à perdre autant d'hommes. C'est extrêmement compliqué.
Une force qui repose essentiellement sur des soldats originaires de pays de la région, comme le Tchad ou le Togo. Des contingents souvent mal équipés et peu formés.
Très souvent, ce sont les pays les plus pauvres du monde qui mettent à disposition un certain nombre de contingents qui n'ont pas du tout les moyens parce que leurs pays sont beaucoup moins en capacité.
Et pour éviter d'être pris pour cible, ces casques bleus sont souvent réduits à rester dans leur base.
La stratégie de la MINUSMA, ça a surtout permis d'éviter d'avoir autant de pertes. Ça veut dire qu'elle s'est de plus en plus bunkérisée dans ses campements. La critique des Maliens, c'est de dire ils font pas vraiment de boulot.
Et pour faire taire ces critiques, la mission de l'ONU au Mali a renforcé sa présence dans le centre du pays, dans la région de Mopti, théâtre d'attaques djihadistes et de violences intercommunautaires.
De nouvelles frictions sont à prévoir aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis, et peut-être même avec les pays signataires de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Les réserves d'uranium enrichi de Téhéran vont dépasser à partir d'aujourd'hui la limite prévue par cet accord. C'est une première victoire pour les associations de consommateurs qui aimeraient rendre obligatoire dans l'Union européenne ce système. Le géant de l'agroalimentaire Nestlé va adopter le Nutri-Score, un étiquetage nutritionnel avec des couleurs allant du rouge au vert, Audrey Tison.
Ce produit est-il plutôt bon ou plutôt mauvais pour la santé? À consommer en petite ou en grande quantité? Le Nutri-Score répond à ces questions en un coup d'œil. Le produit est classé du vert au rouge, de la lettre A à la lettre E. Un visuel simple, déjà testé en France, en Espagne et en Belgique, mais seulement avec les producteurs qui se portent volontaires. Pour l'imposer, 7 associations de consommateurs de différents pays ont lancé récemment une initiative citoyenne européenne, sorte de pétition qui doit réunir 1 million de signatures pour obliger la Commission européenne à lancer une réglementation. L'initiative de Nestlé vient donc à point pour mettre la lumière sur ce projet. Les boîtes de Nesquik, Buitoni et autres Nesty vont progressivement afficher le Nutri-Score d'ici 2 ans. Changement de stratégie pour ce groupe qui faisait jusqu'ici partie des multinationales refusant cet étiquetage jugé trop stigmatisant.
En France maintenant, la Haute Autorité de la Santé prône le déremboursement de l'homéopathie. Voilà ce que dit ce matin le quotidien Libération. Cet avis définitif doit être officiellement rendu public demain. Une conclusion très attendue. Ce sera ensuite au gouvernement de trancher sur le remboursement ou non de l'homéopathie en France. Nicolas Sarkozy l'assure, ce ne sont pas ses mémoires. Il sort ce jeudi un livre en librairie intitulé « Passion ». C'est pourtant un récit personnel, Rosalie Lafarge.
Oui, très personnel, tellement qu'on en oublierait presque parfois que l'homme qui écrit a été président de la République. Loin de n'être qu'une succession d'histoires politiques, d'amis et d'ennemis dans le parti, Passion dresse avant tout le portrait d'un homme. Un homme dont la vie est faite de hauts et de bas, professionnellement comme personnellement. Un homme sensible, touché par l'éloignement progressif de celle qui est désormais son ex-femme. Un homme moins bling-bling que ce qu'on a pu vouloir faire de lui. C'est le sentiment qu'il donne quand il se sent obligé de préciser qu'il a toujours aimé les usines. Un homme qui a gravi les échelons du pouvoir. pouvoir un par un et qui, à le lire, le doit avant tout à lui-même, pour ne pas dire seulement à lui-même, à sa volonté, son acharnement, sa capacité à tenir, parfois envers et contre tous, mais un homme capable aussi de reconnaître des erreurs. Le Fouquet, par exemple, détestable, l'utilisation d'images de son fils pour sa carrière politique, sans doute ne le referais-je pas, et un homme de valeur surtout, de valeur gaulliste, de droite, toujours assumé, jamais renié, et porteuse du rassemblement. Nicolas Sarkozy critique la division chez les LR en ce moment, quand lui aspirait à rassembler le plus grand nombre, pas à dominer la secte de ses plus proches partisans, et d'en vouloir à Valérie Pécresse et son mouvement libre, à Xavier Bertrand et sa manufacture, à Bruno Retailleau et Force Républicaine. À l'arrivée, je crains fort que chacun sera déçu, écrit Nicolas Sarkozy, avant d'expliquer en quelques lignes comment rassembler plutôt que diviser.
Merci Rosalie Lafarge du service politique de France Culture. La canicule se renforce ce jeudi. Météo France porte à 78 le nombre de départements placés en vigilance orange, n'épargnant finalement que les côtes de la Manche, de la mer du Nord et quelques zones sur le sud-ouest. Le soleil s'impose sur tout le pays et comptez déjà ce matin 28 degrés à Paris, 29 à Besançon et Bordeaux, 31 degrés à Lyon, 34 ce matin à Marseille. Cet après-midi, les températures vont dépasser largement les 35 degrés avec par exemple 41 degrés à Montluçon. Il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées sur France Culture et aujourd'hui vous nous proposez un portrait croisé. Si Boris Johnson devient Premier ministre au Royaume-Uni, doit-on craindre qu'avec son homologue américain, il n'engendre un nouveau désordre mondial, Jacques ?
Oui, c'est le rêve des auteurs de politique fiction, écrit Sylvie Kaufmann dans Le Monde, qui, ailleurs que dans leurs fantasmes les plus fous, auraient imaginé qu'un jour, les États-Unis et le Royaume-Uni, deux pays qui, séparément ou ensemble, ont dominé le monde, seraient dirigés par des hommes aussi disruptifs que Donald Trump et Boris Johnson. Leur point commun, un narcissisme sans limite, une savante utilisation des médias, le goût du risque et de l'improvisation, un recours totalement désinhibé aux mensonges, une propension à mobiliser les émotions plutôt que les faits. Autre point commun, plus lourd de conséquences, leur commune détestation de l'Union européenne. Pour Donald Trump, le Brexit tiendrait même lieu d'épiphanie. Marc Léonard, directeur d'un think tank européen sur les relations international estime que le référendum de juin 2016 est l'événement qui a changé les règles du jeu aux yeux du président américain. Cela a tout bouleversé, dit-il. Il l'a senti. Après cela, son élection à lui devenait possible. Mais si Boris Johnson accède au pouvoir, il risque aussi de s'apercevoir rapidement que les intérêts de son pays ne coïncident pas nécessairement avec ceux du chantre d'America First. Alors peut-être, face au protectionnisme impitoyable et au poulet chloré de Donald Trump, s'apercevra-t-il que le Royaume-Uni est plus européen qu'il ne voulait le dire. Mais rien n'est joué malgré la confortable avance du candidat des conservateurs. Comme le souligne Sacha Mitchell dans Courrier International, le seul à pouvoir empêcher Boris de devenir Premier ministre, c'est Boris lui-même, dit l'adage largement répandu dans les sphères politiques et médiatiques outre-Manche. Dans l'immédiat, c'est sa vie privée qui pourrait lui faire de l'ombre avec cette information de The Guardian, selon laquelle la police est intervenue pour une bruyante dispute survenue la semaine dernière au domicile de sa compagne. L'autre fait marquant, c'est la révélation par The Observer de liens entre Johnson et Steve Bannon, une affirmation gênante pour Johnson, estime le Financial Times, en partie parce qu'il se présente comme un candidat modéré auprès de la base du parti conservateur, mais aussi parce que M. Johnson a toujours qualifié de fantasme gauchiste toute association avec le stratège de la droite dure à l'origine de l'élection de Donald Trump. Du coup, plusieurs sondages relèvent une réduction de l'écart avec Jeremy Hunt, son concurrent, auprès des militants conservateurs. Il en faudra plus pour le mettre en difficulté, et notamment que son challenger parvienne à démontrer qu'il est le plus compétent sur la question du Brexit en pointant le caractère irréaliste de la position de Boris Johnson. Escalade, le mot nous vient de l'Occident. Au Moyen-Âge, comme le rappelle Gaïd Zminassian dans les pages idées du Monde, depuis son origine montagnarde, il est devenu ce mot très présent dans le vocabulaire des journalistes et de la diplomatie pour définir ce nouvel ordre mondial chaotique que Donald Trump n'a pas peu contribué à dessiner. Pour Clausewitz, il était synonyme de monter aux extrêmes. extrême, ce que le général Desportes résume ainsi. On sait que l'escalade commence par des mots, mais dès le premier coup de feu, on ne sait plus où elle s'arrête. Le bluff peut y jouer sa partie pour obtenir de l'adversaire des concessions, afin d'éviter le conflit armé. Mais l'escalade peut aussi couvrir des motivations plus secrètes, comme dans le conflit avec l'Iran. Aujourd'hui, les États-Unis sont en passe de devenir le premier producteur mondial de pétrole, à condition que cette ressource conserve un prix élevé, car leur industrie d'extraction est la plus chère. La fracturation hydraulique permet de récupérer du gaz ou de l'huile piégée en faible quantité dans les roches, malgré d'énormes risques environnementaux, pollution des nappes phréatiques, des rivières et des sols, tremblements de terre. Comme le montre Martine Orange dans Mediapart, les financiers de Wall Street, qui ont soutenu les sociétés du secteur pendant plus d'une décennie, s'impatientent. Ils veulent des résultats et des dividendes. L'embargo sur le pétrole iranien leur fournit l'assurance d'une remontée des cours. Dès avant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient le premier importateur du monde. Ils n'ont pas hésité à préserver leurs intérêts par la guerre ou en fomentant des coups d'État, renversant des régimes en place pour garder la main sur le pétrole et assurer la sécurité de leurs approvisionnements au plus bas coût, remodelant la géopolitique dans ce but au Moyen-Orient et faisant de l'Arabie Saoudite, premier producteur et maître du jeu du marché pétrolier, un allié indéfectible. Timothy Mitchell a retracé l'histoire de cette industrie à vocation impérialiste dans son livre « Carbone démocratie, le pouvoir politique à l'ère du pétrole » ou « Comment la gestion des énergies fossiles est devenue une technologie de pouvoir ». Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, l'Éthiopie ou le risque d'une balkanisation est-africaine.
Oui, c'est ça, avec des milliers de personnes hier pour les funérailles des 5 officiels assassinés samedi dernier dans le nord du pays et la capitale Addis Abeba. Dès le week-end, les autorités ont évoqué une tentative de coup d'État concertée. En tout cas, ces meurtres politiques interviennent dans une Éthiopie en voie de démocratisation certes, mais de plus en plus morcelée par des affrontements communautaires, alors qu'elle risque pour le deuxième plus grand pays d'Afrique. Eh bien, on voit ça avec vous, René Lefort, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone si tôt ce matin. Vous êtes chercheur spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Tôt,
eh oui,
tôt.
C'est un peu tôt, mais important pour parler quand même de ces assassinats. 5 tués, je le disais, dont le président d'une des plus importantes régions et le chef d'état-major des forces éthiopiennes. Et puis on apprend hier par Reuters que c'est une attaque qui a aussi eu lieu en 3 points de l'Éthiopie avec des dizaines de morts, dit un porte-parole de la région Amhara où elle a eu lieu. Est-ce que c'est une attaque qui surprend d'abord peut-être par son ampleur et sa complexité, non ?
Elle n'a pas été si complexe que ça. Elle reste par contre tout à fait mystérieuse. Elle n'a pas été complexe parce qu'elle a été concentrée sur la ville de Bahardar. Hein. On sait maintenant depuis cette dépêche de Reuters dont vous avez parlé qu'en réalité il s'agissait bien d'une tentative de coup d'État pour prendre le pouvoir dans la région Amhara, c'est-à-dire chasser le gouvernement Amhara et prendre le pouvoir. Ensuite, il y a eu, 4 heures plus tard, cet assassinat du chef d'état-major et d'un ami qui était avec lui dans son appartement. Est-ce que les deux événements sont liés? Le gouvernement affirme que oui. Bon, mais jusqu'à maintenant, il n'en a apporté aucune preuve. En fait, si vous voulez, ce coup d'état régional reste extrêmement mystérieux. Il a fallu attendre 5 jours pour avoir la première dépêche d'agence, donc un journaliste sur place qui nous donne quelques détails de ce qui s'est passé.
Oui, alors on peut peut-être rappeler dans quelle région on se trouve. Bahardar, c'est cette ville qui est la capitale de la région Amhara dans le nord. C'est une des plus grandes régions éthiopiennes et importante politiquement aussi, cette ethnie Amhara.
Oui, alors si vous voulez, c'est la deuxième région en importance de par la population. C'est la région dont l'élite a dirigé l'Éthiopie pendant plus d'un siècle. Et c'est la région dans laquelle le parti au pouvoir a fait alliance avec le parti au pouvoir dans la région Oromo, qui elle est la plus importante du pays en termes de population, pour porter à la tête du pays le nouveau premier ministre Abiy Ahmed.
Oui, et alors vous-même, vous avez fait plusieurs hypothèses hein, sur Twitter pour, essayer de contextualiser ce coup d'État. Il y en avait une, c'était un coup qui serait aligné sur des revendications de mouvements nationalistes ou alors une révolte des élites uniquement amara, une révolte militaire, une révolte de quelques desperados. Pourquoi est-ce que vous pencheriez aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'il y a quand même un instigateur, un général qui s'appelle Azaminiou Tsige?
Oui. Alors maintenant, il est relativement clair que l'hypothèse selon laquelle il s'agissait d'un coup d'État donc mené par le chef de la sécurité de la région Amara, avec nécessairement des complices ou des appuis parmi l'élite Amara, cette hypothèse-là maintenant est vraiment de plus en plus confirmée.
Et donc, justement, ce militaire, ce Azaminiou Tsige, c'est lui que vous identifiez comme faisant partie de cette élite Amara alors?
Alors, si vous voulez, lui, l'élite Amara, elle est divisée. Je dirais que pour le moment, une grande majorité, ou en tous les cas, une grande majorité de la population aussi, considère que le gouvernement actuel est beaucoup trop faible, beaucoup trop modéré, ne défend pas suffisamment l'ethnie Amara, et donc Assaminé représentait en quelque sorte cette aile ultra-nationaliste de l'élite et de la population Amara.
Oui, alors de quoi est-ce qu'il s'agit encore une fois? Est-ce que c'est vraiment un coup d'État ou plutôt un acte un peu désespéré d'un général qui serait tombé en disgrâce? Je dis ça parce que apparemment la dépêche de Reuters dit aussi que l'attaque est arrivée au moment où il y avait des négociations entre le gouvernement le gouvernement local et le gouvernement fédéral sur la création et sur la lutte contre plutôt des milices Amara, et que ce général lui-même avait été dégradé à l'époque parce qu'il avait soutenu des mouvements nationalistes Amara.
Il avait été soutenu des mouvements nationalistes Amara, c'est un peu difficile à dire. En tous les cas, il avait fait un coup d'État parce qu'il était violemment anti-tigréen. Les tigréens, c'est 6% de la population. Et ce sont donc les élites tigréennes qui ont dirigé le pays depuis que les tigréens ont pris le pouvoir en 1991. Et donc, lui, il était certainement violemment anti-tigréen. Maintenant, il faut essayer de remonter à la genèse de toute cette histoire. Et pour ce faire, il faut remonter à la fin du 19e siècle. Jusque-là, l'Éthiopie consistait essentiellement était concentrée dans le plateau abyssin avec deux ethnies très proches qui gouvernaient, c'est-à-dire les Amara et les Tigréa. À la fin du 19e siècle, ces deux ethnies ont conquis toute la périphérie Amara, du plateau abyssin, c'est-à-dire ouest, sud et est, et ils y ont installé une sorte de système colonial. Bon. Ce système colonial, évidemment, a créé des tensions ethniques que, normalement, en 1991, le système de fédéralisme ethnique mis en place était censé résoudre. Sauf que, après 1991, au lieu que ce soit les élites Amara qui dirigent, ça a été les élites tigréennes. Donc, si on peut dire, on n'a toujours pas réglé, depuis la fin du 19e siècle, le problème de la décolonisation de l'Éthiopie. Et ce coup d'État est un symptôme de cet échec.
Oui.
Et c'est autour de cette question de décolonisation, que moi j'appelle décolonisation, c'est-à-dire comment est-ce que répartir le pouvoir et les ressources entre les différentes ethnies, c'est autour de cette question-là que les Éthiopiens et les élites éthiopiennes se déchirent.
Et alors justement, symptôme de cet échec, il y a beaucoup d'analystes qui évoquaient déjà, même il y a quelques années, une constitution qui serait trop généreuse ou dangereuse, disons, dans sa reconnaissance des nationalités. Mais il y a également eu aussi des tensions ethniques assez fortes ces dernières années en région Amara, notamment en 2016. À quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Est-ce que c'est le résultat de ces tensions ou alors est-ce que c'est vraiment une volonté d'aller plus loin de la part de certaines élites, encore une fois?
Si vous voulez, c'est à la fois le fait que, en quelque sorte, les élites réprimées ou opprimées, ou en tous les cas de seconde classe jusque-là, ont pu tirer parti du fait de la libéralisation politique impulsée par Abiy Ahmed depuis un an qu'il est au pouvoir.
Donc le Premier ministre,
le Premier ministre, pour pousser leurs revendications ethniques. Et là-dessus, on a assisté à une surenchère ethnique de plus en plus forte, ce qui fait que le clivage aujourd'hui politique principal en Éthiopie est entre ce que j'appellerais des fédéralistes qui sont des nationalistes ethniques modérés et des confédéralistes qui sont des ultranationalistes.
Oui, sachant que Abiy Ahmed, donc ce premier ministre qui est arrivé au pouvoir en mai ou en avril de l'année dernière 2018, a fait un certain nombre de réformes qui ont été jugées de l'étranger très libérales, libération de prisonniers politiques, des droits politiques nouveaux pour les partis également. Qu'est-ce que ça veut dire alors que les Amaras ont été oubliés de ces réformes ou alors que c'est des réformes qui sont surtout cosmétiques, quoi, disons, sans effet sur le terrain?
Mais écoutez, on est maintenant, je dirais presque hors de la raison, quoi. Moi, après le tweet que j'ai fait hier, j'ai reçu un tweet qui m'a beaucoup frappé. C'est un internaute qui me dit, monsieur, vous trompez, vous ne réalisez pas que aujourd'hui les gens, je cite, les gens croient ce qu'ils veulent, hein. Essentiellement basés sur leur ethnie, les faits et les preuves ne comptent plus.
Et alors, c'est...
On est dans un climat, si vous voulez, aujourd'hui, totalement, qui devient de plus en plus irrationnel, quoi.
Et à quel point est-ce que c'est inquiétant? Parce qu'il y a effectivement une multiplication des violences intercommunautaires depuis quelques mois, plusieurs mois au moins, dans le nord, dans le sud, qui font souvent des dizaines de morts. Il y avait un chef politique amara qui disait qu'on n'est pas encore sorti d'un système ethno-totalitaire. Vous êtes d'accord?
Bon, si vous voulez, que le système était ethno-autoritaire, ça fait pas l'ombre d'un doute. Qu'aujourd'hui, il y a un glissement de la domination tigréenne, qui répète 6% de la population, à une domination oromo, 30% ou 35% de la population, ça c'est incontestable. Oui. Enfin, on ne peut pas dire aujourd'hui que le système soit ethno-autoritaire. Bon, ce n'est pas le cas. Si vous voulez, les forces centrifuges ethniques sont tellement puissantes aujourd'hui qu'elles disloquent complètement l'autorité fédérale.
Et donc, c'est pas faux de parler de Yougoslavie éthiopienne à venir?
C'est une des possibilités qu'on évoque depuis longtemps. Moi, je pense qu'il y a maintenant deux possibilités et deux seules. La première, c'est le sursaut. C'est-à-dire que la classe politique, qui jusqu'à maintenant a été incapable de faire son travail, Abiy Ahmed compris, cette classe politique comprend que le pays est au bord du gouffre et, d'une façon ou d'une autre, trace un cap clair pour mener cette transition. Si ça ne se fait pas, alors le risque yougoslave est un risque réel.
Eh bien écoutez, c'est dit et on suivra cette situation évidemment. Merci pour vos explications ce matin, René Lefort. Je rappelle, chercheur spécialiste de la Corne de l'Afrique. Merci, bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent « Narcisse n'est pas égoïste », un livre de Fabrice Midal. On le croyait égoïste, trop amoureux de lui-même? C'est un malentendu. Narcisse est le symbole de la vie, de la joie et de l'innocence. Dans cette enquête stupéfiante, Fabrice Midal revisite l'histoire d'un mythe dont notre époque a tant besoin. « Narcisse n'est pas égoïste » de Fabrice Midal, un livre France Culture.
À 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins présentée par Guillaume Erner.
Mais voilà, absolument. Voilà. Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Guillaume, généreux aussi puisque un portefeuille perdu peut même retrouver son propriétaire.
Et une tartine beurrée peut même tomber du bon côté, je dis ça pour vous qui êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner. Alors même en France, on peut vous ramener votre portefeuille, Xavier. C'est l'un des résultats d'une étude passionnante qui vient d'être effectuée par des chercheurs américains. Elle est publiée dans Science. Un travail de titan qui a consisté à perdre 17 000 portefeuilles, et bien dit 17 000, dans 355 villes du monde entier situées dans 40 pays. Alors il y avait déjà eu des tentatives semblables, mais jamais de cette ampleur. Un protocole très simple, on dispose dans chaque portefeuille trois cartes de visite comportant un nom familier dans le pays, par exemple Dimitri Ivanov en Russie. Bien en évidence, un email, un téléphone pour rapporter le portefeuille à son propriétaire. Il y a aussi par exemple une liste de courses dans le langage des pays comprenant du pain, du riz. Il y a également des clés et puis il y a certains portefeuilles qui n'avaient pas d'argent à l'intérieur et d'autres qui comprenaient un peu plus de 13 dollars en monnaie locale. Alors le protocole était simple. Un participant à l'expérience arrivait à la réception des hôtels, des banques, des postes. Il disait, voilà, j'ai pas le temps de ramener ce portefeuille à son propriétaire. Est-ce que vous pouvez vous en charger? Et l'idée, donc, était de mesurer combien de portefeuilles étaient effectivement retournés à leurs propriétaires. Alors, premier renseignement, dans quasiment tous les pays sauf deux, les portefeuilles munis d'argent avaient plus de chances de retrouver leur propriétaire que les portefeuilles sans le sou. Et c'est le principal enseignement, les gens sont honnêtes. Et comme les chercheurs étaient très étonnés, ils ont même refait l'expérimentation en mettant cette fois-ci beaucoup plus d'argent dans un portefeuille, c'est-à-dire non plus 13 dollars, mais 91 dollars. Et dans ce cas-là, 72% des portefeuilles garnis d'argent revenaient contre 61% des portefeuilles munis de 13 dollars seulement et 46% des portefeuilles ne comprenaient pas l'argent. Alors évidemment, vous dites, et la France ? Eh bien la France appartient à la queue de peloton des 25% des pays les plus honnêtes du monde. Alors, on trouve la Suisse en tête, l'Allemagne en queue de peloton donc de ce premier quart. Vous avez donc un peu plus d'une chance sur deux en France qu'on vous ramène votre portefeuille. Les pays nordiques sont grosso modo les pays les plus honnêtes, tandis que les pays en queue de peloton mondial sont le Kazakhstan, le Pérou, le Maroc et la Chine. La Chine, bon dernier, avec un peu plus de 20% des portefeuilles munis d'argent qui reviennent. Moralité de l'histoire, Xavier, vous l'avez compris. Elle est assez contre-intuitive. Si vous voulez qu'on vous rapporte votre portefeuille, il faut mettre beaucoup d'argent à l'intérieur.
Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé. Le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.